Dieu est bon, on l'a chanté. Et en tout cas, je suis content d'être ici ce matin et content de voir aussi vos visages et honoré aussi d'être devant vous, devant Dieu aussi, et de pouvoir présenter ce message qu'il a déposé sur mon cœur. Et je tenais aussi à remercier l'équipe pastorale. Il y a Thierry qui représente ce matin l'équipe pastorale aussi, à Pasteur Mwanza et Jimmy, qui m'ont fait confiance pour ce message. Et je rends toute grâce aussi à Dieu. Il y a peut-être certains d'entre vous qui sont surpris de me voir, parce que la semaine dernière, je n'étais pas là. J'étais malade. Et le Seigneur a pu me restaurer. Le Seigneur a pu travailler aussi. Il a pu agir pour que je sois devant vous ce matin. Et croyez-moi, ça peut paraître anodin, mais c'est un vrai miracle de Dieu aussi. Et je suis aussi touché de pouvoir voir encore vos visages ce matin. Et je remercie le Seigneur, parce que quand on est en bonne santé, on a l'habitude de se voir à chaque fois. Mais quand la santé va moins bien, on est content de revoir ses frères et sœurs aussi à l'église. Et merci pour chacun d'entre vous. Il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont écrit des messages d'encouragement, des paroles de bénédiction et des prières aussi qui m'ont été envoyées, qui m'ont permis de pouvoir me lever ce matin une fois de plus et d'être devant vous. Donc soyez vraiment bénis par rapport à ça et que le Seigneur vous bénisse. On voit que le temps avance. J'ai l'impression que petit à petit, plus je grandis, plus je prends de l'âge, plus j'ai l'impression que le temps avance super vite. Quand j'étais enfant, je me souviens, on avait les vacances d'été. Et j'avais l'impression que les vacances d'été, c'était environ un an de ma vie, alors que c'était que 2 mois. Et je me dis, waouh, mais les vacances d'été, c'est trop bien, j'avais l'impression de passer mais un an où je pouvais faire ce que je veux. Et plus je prenais de l'âge, plus j'avançais, plus je grandissais, plus je me rendais compte que, mais en fait, 2 mois, c'est court. Et aujourd'hui, alors que j'ai 27 ans, et j'ai l'impression que chaque année passe très vite. On est déjà en décembre. Et souvent, quand on a des habitudes comme chaque année après année, comme allumer ses bougies, on se dit, mais c'est pas possible. Ça se répète. C'est les années qui passent, mais tu dis, mais ça se répète. Et on va arriver à ce culte de Noël où on chantera « Paix sur terre ». Vous connaissez cette chanson, non? C'est Noël, paix. Voilà, moi, c'est un électrochoc, ça, pour moi. Quand on chante ça, je dis, mince, on est déjà en décembre. On chante encore cette chanson-là. Je dis, waouh, avec les images, on voit. Tout le monde connaît, ceux qui sont habitués. Et on a l'approche de Noël. On est en début décembre. On est bientôt le 25 décembre. Et on a l'approche de ce qu'on appelle Noël. Et quand on parle de Noël, je me demande, et je vous demande aussi, à quoi ça vous fait penser? Quand on te dit Noël, il y a notre président French aussi qui nous a parlé de la crèche de Jésus. Quand on parle de Noël, on pense aussi à cette crèche, on pense aussi à ce bébé Jésus, on pense au roi mage, on pense à cette étoile, on pense à tout ça. Et j'ai envie de vous demander, à quoi vous pensez, vous, quand on vous parle de Noël? Vous pouvez le dire spontanément. Vous allez devoir participer, désolé. Mais spontanément, des voix comme ça qui sortent dans l'assemblée, à quoi ça vous fait penser, Noël? Un mot. Les cadeaux. Cadeaux, yes. Fête, naissance de Jésus. Père Noël, se réunir.
Chaleur.
Lumière. Yes, qu'a dit lumière? Ouh. Lumière. Quoi d'autre?
Farine.
Farine. Ah. Famille, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu une histoire avec la farine, mais ok. Famille, chocolat.
Humilité.
Humilité, ok. Ouais. Course de l'escalade. Pas moi, ça dépend de où on habite. Les étoiles.
Nourriture,
Frater Noël.
Luc 1.
Faudra peut-être nous le lire alors. Mais ça me fait penser à plein de choses. Moi, ça me fait penser à sapin de Noël, neige. À la date 25 décembre, calendrier de l'Avent, chocolat, on l'a dit, petit Jésus, les rois mages. Et c'est vrai que nous, on se pose la question en tant que chrétien, on se dit, mais à quoi ça me fait penser Noël? À quoi ça nous fait penser Noël en tant qu'Église? Si on pose la même question autour de nous à des personnes qui sont non chrétiennes, ils vont sortir aussi ces exemples ou ces mots. Mais nous, en tant que chrétiens, à quoi Noël nous fait penser? Est-ce qu'en tant que chrétien, on se doit de fêter Noël? Je me suis déjà posé cette question. Et cette question, elle est arrivée quand j'ai eu mon enfant. Je me suis dit, mais est-ce que je dois lui parler du Père Noël? Est-ce que je dois lui faire croire au Père Noël? Est-ce qu'on doit fêter Noël? Est-ce que je dois mettre un sapin de Noël, des guirlandes? Qu'est-ce que je dois faire? Pourtant, c'est une fête chrétienne. Vrai ou faux? C'est une fête chrétienne, mais quand on regarde autour de nous, c'est une fête qui n'est pas fêtée selon la volonté de Christ. Ça vous fait peur? Je ne vais pas vous dire aujourd'hui, ne fêtez plus Noël, ou bien ne mettez plus de sapin, ou bien ne donnez pas de cadeaux à votre enfant. Mais j'ai juste envie de vous poser la question, vu que je me suis posé aussi cette question en tant que chrétien. Comment je dois faire par rapport à ça? Est-ce que c'est là où je dois mettre le véritable focus? Je pense que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. C'est important de savoir pourquoi on fait chaque chose. C'est important de clarifier. Et aujourd'hui, on parle de Noël parce que nous sommes à l'approche de Noël. Mais je pense que c'est important dans tout ce qu'on fait dans notre quotidien en tant que chrétien, de savoir pourquoi on fait telle ou telle chose. Et là, la fête de Noël qui arrive nous pousse aussi à nous remettre en question par rapport à ça. J'entends souvent parler dans des films, comme c'est l'approche de Noël, il y a beaucoup de films de Noël, surtout des films américains, qui passent à 14h sur TF1. Je ne sais pas si vous avez croisé des fois ce genre de film. Peut-être qu'il y en a à 7h, ils sont en train de jeûner, je ne sais pas. Mais moi, ça m'arrive parfois d'allumer la télé à ce moment-là et je vois des films de Noël que je vois depuis tout petit, c'est toujours les mêmes. Je me dis, mais les acteurs, ils vieillissent jamais, c'est incroyable. Je me dis, mais c'est fou, c'est toujours les mêmes films. Et on parle souvent dans ce genre de films ou autour de nous de l'esprit de Noël. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Oui? Non? Un peu comme un langage commun, courant, c'est dans l'esprit de Noël. C'est l'esprit de Noël qui le veut. Et qu'est-ce que c'est cet esprit de Noël? On parle souvent aussi, quand on voit l'esprit de Noël, si on peut matérialiser ça, c'est beaucoup avec la couleur, le blanc souvent, en l'occurrence avec la neige. Mais il y a beaucoup aussi de blanc. Quand vous regardez les décorations, il y a du blanc, il y a un peu de rouge. Il y a beaucoup de lumière pendant Noël. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de gens qui sont souriants, généreux, qui ont un bon comportement, qui font même des cadeaux à des membres de leur famille. Et on dit c'est dans l'esprit de Noël. D'habitude, je ne laisse pas les personnes âgées s'asseoir quand je suis assis dans le tram. Mais comme nous sommes à l'approche de Noël, je pense que je vais laisser cette place à cette personne âgée. Je vais me lever parce que c'est dans l'esprit de Noël. Ou bien quand je vais voir quelqu'un qui a du mal à porter son sac cabas, ben je vais lui proposer de l'aider parce que c'est dans l'esprit de Noël. Et puis ça fait longtemps que je n'ai pas vu un cousin qui est pas très proche de moi, mais c'est quand même mon cousin. Et je vais faire un repas, je vais quand même l'inviter, même si je ne m'entends pas bien avec lui, parce que c'est dans l'esprit de Noël. Et je pense que quand on parle de cet esprit de Noël, vu que c'est une inspiration, on parle de la venue de Jésus. On parle de la venue d'un sauveur, du sauveur. Et je pense que dans la fête de Noël, il y a beaucoup de choses qui viennent toucher notre façon d'être en tant que chrétien. Ça veut dire qu'on parle de l'esprit de Noël, mais finalement, c'est quelque chose qui découle d'un comportement d'un chrétien. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? D'autres à l'extérieur qui ne connaissent pas l'Église, qui ne connaissent pas forcément Jésus, mais qui fêtent Noël, savent qu'il faut bien se comporter parce que c'est bientôt Noël, savent qu'il faut être généreux parce que c'est bientôt Noël, sans forcément arriver dans une église ou être dans une église fréquemment, ou bien même ouvrir sa Bible au quotidien. Mais il sait, parce que c'est quelque chose qui a traversé le temps, et il sait que en décembre, le 25, pendant Noël, il faut avoir cette caractéristique. Il faut que ma maison soit décorée avec de la lumière. Il faut qu'il y ait toutes ces choses et que les gens se sentent bien accueillis chez moi. Le nom de Jésus, finalement, à cette date-là, le nom de Jésus est connu et reconnu par tout le monde. Et aujourd'hui, nous disons que nous sommes bientôt en 2020, et c'est 2020 après Jésus-Christ. Et ça, personne le conteste. Personne ne dit que non, c'est faux. Personne ne dit que Jésus n'a jamais existé. Mais la seule différence entre nous et les autres, c'est que nous, on reconnaît Jésus comme notre Sauveur, notre Seigneur. Et on ne fête pas forcément Noël parce qu'il faut qu'il y ait la lumière, il faut qu'il y ait tout ça, mais on le fête parce que nous reconnaissons que ce jour-là, que ce soit le 25 décembre ou non, on ne sait pas, mais on a dit 25 décembre, mais ce jour-là, le Sauveur est arrivé. Vous êtes avec moi? Oui. Ce jour-là, le Seigneur est arrivé, le Sauveur est arrivé, Jésus est arrivé. Et oui, Jésus est arrivé bébé, Jésus est arrivé dans une crèche, mais Jésus a grandi, Jésus a fait son ministère, Jésus a été tenté dans le désert, il a survécu, Jésus nous a montré l'exemple, comment prier, Jésus nous a montré comment agir avec le Saint-Esprit, Jésus nous a montré toutes ces choses, il a porté nos péchés, il est arrivé sur la croix, il est mort et ressuscité. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier pendant Noël. On ne doit pas se bloquer au bébé Jésus. Il y a eu le bébé Jésus, il y a eu le Jésus adulte aussi. Il y a eu le Jésus qui est mort et ressuscité. Et il y a encore Jésus aujourd'hui qui vit dans nos vies. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est pour ça aussi que nous fêtons Noël, nous, en tant que chrétiens. Et je pense que l'important, ce n'est pas de savoir si je dois fêter Noël ou non. Et l'important, c'est de savoir comment je me positionne face à Noël. Pourquoi je fête Noël? Si après, il y a une décoration chez vous, s'il y a un sapin de Noël, s'il y a des cadeaux, c'est du bonus. Tant que les cadeaux et le sapin de Noël, la tradition de Noël ne prend pas la place de Dieu. Trop souvent, on fonctionne... Quand je me suis posé cette question, je me suis dit, mais trop souvent on fonctionne de manière où c'est comme si on doit se priver de tout et mettre des barrières sur tout. Moi, je pense qu'il faut donner la place de Dieu à la première place. Et je pense que pendant ce temps de Noël, il faut que Dieu reprenne la première place. Et je ne pense pas qu'on doit aller maintenant dans le marché de Noël et tout saccager et dire non, c'est pas bon, c'est pas, non, c'est Jésus, là vous avez mis un bébé. Non. Je pense que nous, en tant que chrétiens, nous devons être positionnés par rapport à ça et face à ça et pouvoir fêter Noël avec Dieu, pour Dieu. Et finalement, c'est vrai qu'on fait un peu une fixation sur le 25 décembre et on se dit... Noël, c'est cette date, et puis il faut que je fasse ça, cette date, ou bien d'autres personnes non chrétiennes ont envie, comme je le disais tout à l'heure, de mener de bonnes actions le jour de Noël. Mais par rapport à nous, chrétiens, je pense que nous devons avoir une attitude un peu différente par rapport au jour de Noël. C'est un peu comme toutes ces fêtes, comme on entend parler de la Saint-Valentin. On se dit que la Saint-Valentin, c'est le jour où tu dois aimer ta femme et lui faire des cadeaux et l'emmener au restaurant. Et puis, on a souvent entendu des personnes qui disent que la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Si j'ai envie d'emmener ma femme au restaurant, j'attends pas la Saint-Valentin ou une fois par année. Pour ceux qui sont mariés, j'espère. Pour vous. Mais ça ne nous empêche pas de sortir le jour de la Saint-Valentin. Aujourd'hui, j'ai envie de dire pareil avec Noël. Nous devons tous fêter Noël. 365 jours par an. Tous les jours, ça doit être Noël pour nous. Tous les jours, on doit pouvoir fêter l'arrivée de Jésus. Tous les jours, on devrait avoir envie d'être la lumière du monde. Tous les jours, on doit avoir envie d'aider son voisin. Dieu nous a demandé dans sa parole d'aimer nos ennemis. Il nous a même dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et je pense que tous ces passages et tout ce que Jésus nous enseigne à ces moments-là, ce n'est pas uniquement pour le jour de sa naissance. Je pense qu'il veut nous emmener plus loin. Je pense qu'il veut nous emmener à vivre ce qu'on appelle Noël, si on doit appeler comme ça, au quotidien. Pour moi, vivre pleinement Noël, c'est être consacré à Christ. Tous les jours, à chaque fois que je respire, et même quand mon âme ou bien mon être n'est pas d'humeur à louer le Seigneur ou bien trop touché par ce qu'on vit ici sur terre, je fais comme David, je demande à mon âme, j'ordonne de louer le Seigneur. Même quand c'est difficile, j'essaie de donner une parole. Parce que quand Jésus est passé ici, tout son trajet pour pouvoir aller se faire crucifier, ça devait être compliqué. Et je ne comprends pas comment Jésus, à un moment où il devait être à train limite d'agoniser, il arrive à sortir de sa bouche, pardonne-les. Ça devait être difficile. Est-ce que quelqu'un a déjà eu soif ici? Ne serait-ce que quand tu as soif, tu arrives à peine à parler, tu as envie de boire de l'eau. Alors quand tu t'es fait châtier, maltraiter et tu dois porter un fardeau, mais quelle dose d'amour Jésus avait à ce moment-là, malgré ce qu'il portait, pour pouvoir délivrer une parole de bénédiction. Et je pense que ce genre de choses, nous sommes appelés à le vivre, pas seulement le jour de Noël. C'est vraiment là-dessus, je pense, qu'on pourrait marquer cette différence. Parce que dans la parole, il est écrit qu'on doit être le sel et la lumière du monde. Et Dieu nous demande aussi d'aller faire de toutes les nations des disciples. Et si on prend un jour par année pour faire de toutes les nations des disciples, c'est toute une vie qui passe. Parce que même si on se consacre tous les jours pour pouvoir respecter ce commandement de Christ, ça prend déjà une vie. Tous les jours. Si on a envie de faire de toutes les nations des disciples, ne serait-ce commencer par sa propre famille, tous les jours, ça coûte. Alors si on se concentre que sur un seul jour qui est le 25 décembre pour être un peu chrétien, le temps va vite passer. Et on va répéter les bougies qu'on allume, les chants de Noël, le repas de Noël, la tradition de Noël, et on va recommencer l'année prochaine. Et ces choses, en fait, ce n'est pas des choses qui sont mauvaises, mais je pense que nous devons avoir le focus sur les bonnes choses. On va prendre un passage. Je vous invite donc à prendre votre Bible, soit papier ou bien sur votre smartphone. Et on va lire un passage qui se trouve dans Matthieu 5, et c'est de 13 à 15.
Vous êtes le sel de toute la terre. Mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Il ne sert plus à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.
Yes. Est-ce qu'on peut encore relire ce passage attentivement? Soyons bien attentifs à chaque mot qui ressort sur la Bible. Et vous êtes le sel de toute la terre. Donc, c'est projeté ici. Si Elina, tu peux encore le reprendre, on va encore le lire une fois.
Vous êtes le sel de toute la terre.
Yes.
Mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Il ne sert plus à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.
Waouh! On parle souvent à l'église de quel est mon appel? Prie pour moi pour mon appel, prie pour moi pour ce. Qu'est-ce que je dois faire en tant que chrétien? Mais là, Dieu s'adresse à nous en disant que nous sommes le sel de toute la terre. Nous sommes la saveur de toute la terre. Et en fait, c'est Dieu qui le dit. Ça ne veut pas dire que nous sommes des personnes qui se vantent. C'est Dieu qui le dit. C'est une parole pour nous en disant que nous sommes la saveur du monde. C'est incroyable. Je ne sais pas ce que ça vous évoque. Peut-être que ça vous fait peut-être pas grand-chose. Mais quand moi j'entends que c'est moi qui donne le goût au monde, je me dis, mais pourquoi moi? Pourquoi Dieu m'a choisi? Je vois qu'il y a, on a une église multiculturelle, il y a des personnes qui mangent des plats plus assaisonnés, par exemple nous en Afrique, ou bien les Indiens, où c'est très assaisonné, pour des Français un peu moins, sinon un autre type d'assaisonnement, mais il y a toujours de la saveur. Peu importe ce qu'on mange, souvent, quand c'est une spécialité, un spécialiste qui cuisine bien, un plat typique de la région ou autre, ça a toujours de la saveur. Je me suis demandé comment on peut manger du fromage fondu avec du pain. Mais ça a de la saveur quand même. Vous avez déjà mangé une fondue sans saveur? Ou des frites sans sel? C'est pas très bon. On est d'accord. Le sel apporte une certaine saveur ou les assaisonnements. Et Dieu est en train de nous dire que nous sommes cette saveur pour la terre. Et il dit même encore que quand le sel perd son goût, on le balance dehors et les gens marchent dessus. Et si nous sommes la saveur du monde, il faut qu'on puisse tout faire pour pouvoir garder notre goût. Je sais que plusieurs fois j'ai perdu ma saveur autour de moi. Parce que quand quelqu'un m'a coupé la route, je l'ai insulté. Tout d'un coup, j'ai moins de saveur. Ou bien quand une personne me demande un service, j'ai dit « j'ai pas le temps ». Ou bien quand il y a ces personnes qui font un métier qui est très difficile, c'est les personnes qui font, comment on peut dire ça, démarches, ouais, ils font, c'est les démarcheurs, ceux qui viennent toujours, qui t'appellent sur le téléphone ou bien qui te donnent des prospectus. « Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un peu de temps ?» Et c'est limite, tu tapes dans leur main, tu dis « ah, laisse-moi tranquille ». Ou bien quand quelqu'un t'appelle « oui, bonjour, ah, on raccroche ». On perd la saveur du monde. Et nous devons participer à cette saveur. Et plus loin, il dit encore que nous sommes la lumière du monde. Et c'est vrai que la préparation de la fête de Noël me rappelle ce que c'est la lumière. Il y a des avenues avec des guirlandes, avec de la lumière. Il y a tout qui est décoré avec énormément de lumière. Je me demande même, mais où est-ce qu'ils puissent toute cette électricité? Parce que des fois, même quand il est 4 heures du matin, ça reste illuminé. Et c'est vrai qu'on regarde les ronds-points. Sur les ronds-points, il y a des grands sapins avec des grandes lumières qui clignotent de mille feux. C'est cette lumière aussi que nous devons être en tant que chrétiens. Cette saveur et cette lumière rayonner autour de nous, rayonner là où nous sommes. Et c'est ça Noël pour moi. C'est ça Noël pour moi et je pense que oui, on doit essayer de pouvoir le vivre au quotidien. Comme je le disais précédemment, la naissance de Christ, la naissance du Sauveur, la naissance du Consolateur, le Dieu Sauveur, le seul et l'unique Dieu, le Rédempteur vivant. Quoi d'autre pour vous? Qu'est-ce que Dieu évoque pour vous? Spontanément, on a dit à quoi nous fait penser Noël, mais maintenant je vous demande, mais qu'est-ce que Dieu est pour vous? Sauveur, secours, appui, amour, force, papa, consolateur, comment? Modèle, yes, conseiller. Dieu avec nous. Yes. Quoi d'autre? Tout puissant. Guéri. Yes. Le chemin. Quoi d'autre? Yes. Espérance.
Fidèle.
Vie, solution. N'est-ce pas magnifique d'avoir un Dieu comme celui-ci?
Amen. Médecin.
Notre assurance aussi. Parce qu'on paye cher l'assurance en Suisse. Mais quand on est malade, ça ne nous soigne pas. Notre assurance. Et je pense que c'est quand on parle chacun donne un mot qu'il attribue à Dieu pour sa vie, ça montre la richesse de Dieu. Ça montre la richesse de Dieu et ça nous montre aussi à quel point ce Dieu qui paraît si grand, inatteignable, est aussi proche de nous. Mais quelle grâce! Lui qui était sur le trône est descendu pour pouvoir se mettre à notre niveau et pouvoir nous parler face à face. Être en interaction avec nous et être ce Dieu-là que nous avons énuméré. Il y a eu aussi, dans le Nouveau Testament, des prophéties qui ont été données pour la venue de Jésus. Et on va lire encore un texte qui se trouve dans Jérémie. Donc Jérémie 23, est-ce que verset 5.
Le Seigneur déclare, le jour vient où je ferai naître un vrai fils de David.
Yes.
Il gouvernera comme un bon roi, il agira avec intelligence, il fera respecter le droit et la justice dans le pays.
À quoi ça vous fait penser ce passage? Ou bien à qui? Jésus. C'est une prophétie. Parce qu'à ce moment-là, Jésus n'était pas encore arrivé sur terre. Mais il y a plusieurs passages dans la Bible où il y a ce type de prophétie. Et quand Jésus est venu, on l'appelait souvent « fils de David ». Et c'est aussi une réponse à cette prophétie-là qui est dans le livre de Jérémie. Et de la même manière, il y a des choses qui sont dites sur toi et moi dans la Bible. De la même manière, comme on a lu ce texte, être le sel et la lumière du monde. Dieu nous demande de rayonner autour de nous. Et ça, c'est un appel pour chaque personne qui a donné sa vie à Jésus et qui a décidé de marcher en nouveauté de vie avec Jésus. Si, pour la plupart des personnes qui sont ici ce matin, la plupart des personnes qui sont baptisées ont décidé de marcher en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Et c'est une des choses, marcher comme ça, oui, c'est ça, exactement. Et c'est une des choses, une des promesses dans la Bible que le Seigneur a pour nous, rayonner. Et si vous êtes partie de cette église, vous savez que nous sommes actuellement dans les années pour bâtir sur un roc, bâtir sur Jésus, bâtir sur des choses solides. Et dans quelques années, nous allons passer dans le cap de rayonnement. Rayonner là où nous sommes, à Carouge, et encore plus loin, et dépasser même peut-être les frontières. Le rayonnement. Et de la même manière où les lumières rayonnent de mille feux à Carouge, de la même manière, je vous encourage à rayonner autour de vous. Et aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Même si ça fait des années, vous êtes à l'église ou peut-être même peu. Aujourd'hui, on a encore le temps et encore la possibilité de prendre cette décision, de continuer à suivre Christ et de rayonner autour de nous. Et aujourd'hui, c'est la chose pour laquelle j'ai envie de vous encourager. Et je pense qu'on peut prendre un temps de prière et de proclamation sur nos propres vies. Quand on parle de rayonnement, ce qui est un peu compliqué, c'est que souvent on voit Dieu comme notre propre génie. Ça veut dire que Dieu, parfois on peut le voir comme la personne qui répond à mes besoins. Mais quand Jésus est venu sur cette terre, il a répondu aux besoins des autres. d'abord. Et c'est vrai que quand on parle de rayonnement, c'est pouvoir répondre à aux besoins des autres et pas forcément aux nôtres. Et quand je dis répondre aux besoins, ce n'est pas forcément faire tout ce qu'une une personne te demande de faire. Mais je peux vous assurer que quand vous prenez attention à une personne, c'est répondre à son besoin. Une personne qui est dans la rue, qui est allongée, qui peut-être demande de l'argent, mais a besoin finalement qu'on prenne du temps pour lui. Et ça, c'est la chose qui coûte le plus, c'est donner du temps à quelqu'un. Et si vous êtes d'accord, je ne vais forcer personne, mais les personnes qui veulent prendre ce temps de prière et se lever maintenant pour qu'on puisse prier par rapport à ce rayonnement que nous voulons être autour de nous, que ces personnes se lèvent. J'ai invité Chris aussi à nous accompagner avec un chant. Et les personnes qui veulent répondre à cet appel de pouvoir rayonner autour de nous, levez-vous. Les personnes qui ne se sentent pas, vous pouvez rester assis, il n'y a aucune obligation. Vous ne serez pas jugé. C'est vraiment quelque chose que vous faites par conviction et avec votre cœur. Et on va prendre ce temps aussi pour prier. Seigneur, à travers ce chant, nous voulons aussi nous abandonner à toi, Père. Et nous savons que il est impossible de rayonner si toi, tu n'es pas avec nous. C'est pour ça que nous voulons nous abandonner à toi. C'est pour ça que nous venons nous mettre devant toi. Parce que par notre propre capacité, par notre propre force, pas avec notre nature humaine, il est difficile de rentrer dans ce rayonnement-là en tant que chrétien. C'est pour ça que Père, aujourd'hui, nous sommes devant toi et on dit ce matin qu'on dépend que de toi et on te demande, Père, de pouvoir être avec nous. Pour pouvoir être cette personne qui rayonne autour de ce monde. Seigneur Jésus, je te prie de pouvoir parler et toucher le cœur de chacun de nous ici présents. Père, je te prie qu'on puisse saisir ta parole, qu'on puisse saisir ce que tu veux véritablement de nous. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire ce matin et merci Seigneur pour ce que tu es en train de semer maintenant dans nos cœurs. Merci Seigneur. Sois exalté.